Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le monde, chaque année, 10 millions de personnes meurent d'un cancer. Où en est cette maladie en France? Quel impact avec la pandémie de Covid-19? Le président du comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer et un oncologue de l'hôpital Fleurias sont nos invités. Reportage au monastère royal de Brou, vous pouvez voir le tableau monumental de Gustave Doré de retour de Rome. La journée mondiale de la radio, c'est le 13 février. Focus sur son histoire. Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourque, en bref.
Violences faites aux femmes, de l'emprise à la libération. Cette conférence débat aura lieu à la salle multimédia de Foissia le 10 février à 20h. Edith Lombardi, psychologue clinicienne, en sera l'invitée. C'est la première conférence organisée par ABCDE, l'association Bressane, citoyenne de débat et d'échange créée il y a quelques années, veut organiser des conférences et débats autour des enjeux du 21e siècle. Inscription sur l'adresse abcde.bresse@gmail.com. Des ateliers parents-enfants organisés par le théâtre de Bourg-en-Bresse. Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances, vous pouvez venir à un atelier danse ou musique en famille. Ce sont les 9, 22 et 24 février. Alors, leur objectif, c'est d'apprendre à jouer avec tes émotions, à chanter et communiquer avec son corps. C'est 5 euros pour les adultes et 3 pour les enfants. Et il faut réserver à la billetterie du théâtre. Deux projets ont besoin de votre soutien et lancent une campagne de financement. Pour créer une bricothèque à Bourg-en-Bresse, une idée lancée par le Repère depuis plusieurs mois, l'équipe de ce tiers-lieu dédié à la récup, au zéro déchet et au partage réfléchi à ce nouveau lieu. Un espace pour accueillir des ateliers collaboratifs, emprunter des outils ou encore se former à leur utilisation. Alors pour ce nouveau projet, l'association a emprunté de l'argent et obtenu des aides publiques, mais ils ont besoin d'argent pour compléter ces financements. 2000 euros pour finir les aménagements du local et acheter du matériel. Vous pouvez faire un don jusqu'au 17 février sur le site Hello Asso et vous recherchez le projet L'Atelier du Repère. À ce jour, ils ont collecté 930 euros. Du côté du Bugey, la maison d'Izieux veut donner vie au dessin des enfants. Ces 44 enfants arrêtés et déportés le 6 avril 1944 avec 7 éducateurs. La lanterne magique des enfants d'Izieux, c'est le nom de ce futur court-métrage d'animation. Un projet du studio d'animation Parmi les Lucioles Film en collaboration avec la maison d'Izieux et l'école d'art Émile Cole. Ils ont eux aussi obtenu des financements, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Ils ont besoin de 30 000 euros. Alors un peu plus de la moitié a déjà été versée. Si vous voulez participer, il reste environ un mois et demi et ça se passe sur le site Kiss Kiss Bank Bank avec le nom La Lanterne Magique des Enfants d'Izieux.
Deux minutes, une actu.
Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Et Inès, vous nous faites l'historique de ce média.
En France, tout commence le 24 décembre 1921. Quelques privilégiés seulement ont eu la chance d'écouter la première émission de radio par Radio Tour Eiffel. En 1929, c'est le premier Tour de France qui est retransmis à la radio. Le média se développe et les familles se réunissent autour de leur poste pour écouter attentivement les quelques émissions de l'époque. En 1939, 50% de la population française écoute alors la radio. Un grand moment de radio, mais sur le coup peu écouté par les gens en direct, c'est l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Il diffuse cet appel deux fois en direct depuis Londres, et le texte a été aussi diffusé dans la presse écrite, et il permet de rallier de nombreux Français à la résistance. Aucun enregistrement sur le coup n'a été fait, mais le général de Gaulle le relira quelques mois plus tard. On écoute un extrait.
J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
En 1945, les radios passent sous le contrôle de l'État. Au lendemain de la guerre, il veut garder la main sur ce moyen de communication. Dans les années 1950, les transistors sans fil se développent et la radio s'écoute partout. C'est aussi l'arrivée de la bande FM qui module la fréquence. La télévision vient aussi concurrencer progressivement la radio. Mai 98, ce sont les révoltes étudiantes en France. Le mouvement est couvert par RTL, qui émet depuis le Luxembourg, et par Europe 1, qui émet à la frontière allemande. Ces stations échappent au contrôle de l'État, mais arrivent à émettre en France pour informer les habitants. On écoute un extrait de RTL en mai 68.
Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, pour quatre voitures qui sont retournées.
De leur côté, les journalistes de l'ORTF, l'organisme qui gère la radio nationale française, font grève pour demander l'indépendance de leur radio. Mais l'État renvoie ses journalistes. Des radios pirates se développent alors, elles émettent illégalement avec des systèmes bricolés. C'est le cas de notre radio, alors connue sous le nom de Tropic FM. Elle émettait depuis l'étage du café chez la Jeanne au centre de Bourg-en-Bresse. En 1981, François Mitterrand annonce la fin du monopole de l'État sur la radio. C'est la naissance des radios libres, les radios pirates deviennent alors légales, comme Tropic FM. De nouvelles stations sont aussi créées, et en 1982, on recense 2000 radios. À partir des années 2000, on peut écouter et réécouter la radio sur Internet. 90 millions de podcasts sont écoutés tous les mois. Aujourd'hui, environ 60% de la population écoute la radio quotidiennement.
L'invité de Radio B.
Chaque année, dans le monde, 10 millions de personnes meurent d'un cancer. Le 4 février est la journée mondiale contre le cancer et donc l'occasion de faire un point sur cette maladie. Première cause de décès chez l'homme et la deuxième pour les femmes en France. Le docteur Jean Bruyère, président du comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer, est notre invité. Docteur Jean Bruyère, bonjour.
Bonjour.
Alors le 4 février, c'était la journée mondiale de lutte contre le cancer. Où en est cette maladie en France?
C'est une maladie qui progresse en nombre de cas. D'abord parce qu'on est plus nombreux. Ensuite, parce qu'on vit plus vieux et que c'est une maladie qui survient surtout après 50 ans. Mais il y a à peu près la moitié des cas de cette augmentation qu'on ne peut pas expliquer et qui est vraisemblablement due aux conditions de vie, à la pollution et à la chimie qui nous entoure et aux ondes.
Alors, quel est le cancer le plus meurtrier dans notre pays?
Il y a deux cancers qui sont terrifiants, c'est le cancer du poumon et le cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, bon, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose pour le prévenir. En revanche, le cancer du poumon, c'est une catastrophe. Et d'ici quelques années, on va assister à la parité entre les cas des hommes et les cas des femmes. Alors qu'autrefois, il n'y avait jamais de cas féminin. Le fait que les femmes se soient mises à fumer a déclenché, et c'est un cancer qui est redoutable avec 17% de guérison. Le tabac est responsable de la moitié des cancers en France, et il est responsable de 78 000 morts par an, alors que la route ne tue que, entre guillemets, 4 000 personnes.
Alors chaque jour, un peu plus de 1000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer. C'est un chiffre de la Ligue contre le cancer. Mmh. Est-ce que ce chiffre est en hausse, docteur Bruyère?
C'est un chiffre qui est en hausse, effectivement. Et la Covid va certainement avoir des conséquences dramatiques sur le nombre de cancers et sur le nombre de décès dus au cancer. Parce que du fait des confinements, les gens n'ont pas fait les dépistages, ne sont pas allés consulter quand ils avaient des symptômes et ont laissé évoluer leur maladie jusqu'à un stade malheureusement non curable. Et avec la Covid, le taux de dépistage du cancer du sein est tombé de 58 à 42%. Et 58%, c'était déjà lamentable. Il faudrait qu'on atteigne 75% pour être vraiment efficace.
Médiatiquement et dans beaucoup de têtes, le Covid est devenu la préoccupation numéro un. Est-ce que selon vous, on a oublié le cancer?
On a oublié le cancer parce que sur les ondes en particulier, on ne parlait que du Covid matin, midi et soir, et à toutes les sauces. Et tous les jours, il y avait un nouveau virologue qui s'exprimait sur les ondes ou à la télévision. Et ça a complètement occulté les autres pathologies.
Et quelles conséquences pour les personnes avec un cancer ?
Ben, les estimations avancent le chiffre de 8 à 10 000 décès en trop dus à cette pandémie.
Donc pour les personnes déjà atteintes d'un cancer ?
Voilà. Et qui ne se seront pas fait dépister, ne se seront pas fait traiter à temps à cause de la Covid.
Alors en avril 2021, la Ligue contre le cancer a lancé un appel à projet avec comme thème de recherche l'ARN comme outil innovant des thérapies cancéreuses. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors l'ARN messager, le grand public l'a découvert à l'occasion de la vaccination. En fait, l'ARN messager a été découvert en 1960 par Jacob et Wolf, deux chercheurs français qui ont obtenu le prix Nobel en 1965 pour cette découverte. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de très nouveau. Simplement, il y avait des difficultés pour fixer cet ARN messager de façon à pouvoir l'utiliser. Et comme souvent, la Covid a constitué un état comme un état de guerre, et en temps de guerre, on fait des progrès considérables et rapides, que ce soit en chirurgie ou que ce soit en chimie, et ça a été le cas avec cette vaccination. Donc véritablement un médicament porteur d'espoir, l'ARN messager, pour le cancer.
En quoi c'est un médicament porteur d'espoir ? Qu'est-ce qui peut apporter à la lutte contre le cancer, docteur Jean Bruyère ?
Alors, le problème des cellules cancéreuses, c'est que dès qu'on les ennuie, entre guillemets, elles font une mutation, elles se transforment et elles deviennent imperméables aux thérapeutiques qui avaient marché la première fois. L'ARN messager est une solution qui permet de traiter sans ennuyer, entre guillemets, les cellules cancéreuses, de façon à ce qu'elles ne fassent pas cette mutation. On a également un grand espoir avec l'immunothérapie, qui sera probablement une voie de traitement beaucoup moins agressive que les chimiothérapies actuelles.
Et donc concernant ce thème de recherche, en fait concrètement ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui vont spécifiquement travailler sur l'ARN messager.
Absolument, oui, oui. Oui. Nous, la Ligue, le comité de l'Inde de la Ligue contre le cancer, nous finançons des équipes de recherche. Ça représente d'ailleurs 70% de notre budget, cette aide à la recherche. Et nous finançons des jeunes chercheurs. Et dans les équipes que nous finançons, il y en a trois qui travaillent sur, justement, des thérapies modernes, innovantes.
Alors justement, docteur Jean Bruyère, où en est la recherche pour lutter contre le cancer en 2022 ?
Ces jeunes chercheurs dont je viens de parler sont des gens absolument extraordinaires, d'une intelligence brillantissime, et qui sont véritablement animés par une foi dans ce qu'ils font. Le problème, c'est l'argent, parce que pour faire de la recherche, ça coûte très cher. On a une administration qui est lourde, donc un jeune chercheur qui a une idée propose son idée, on lui demande quelle publication il a fait, ben, j'en ai pas encore fait, bon ben vous reviendrez quand vous en aurez fait, d'une part. Et si par hasard on l'écoute, il faut que son idée remonte dans les arcanes parisiennes et redescende. Et un an et demi ou deux ans plus tard, il a l'argent. Pendant ce temps-là, les Chinois, les Américains, les Australiens ont avancé les recherches. Le but du comité de l'Inde de la Ligue contre le cancer, c'est de leur donner leur argent dont ils ont besoin, de façon à ce qu'ils commencent tout de suite leurs travaux, qu'ils puissent faire leur première publication qui va leur ouvrir les bourses officielles.
Et là, est-ce que justement, la pandémie de Covid, est-ce que ça a peut-être mis en lumière justement ces difficultés ? Est-ce que ça n'a pas justement permis de dire, bah voilà, il faut soutenir la recherche ?
Il faut soutenir la recherche, ça fait partie des 10 propositions que nous avons, que la Ligue nationale a éditées pour les candidats à l'élection présidentielle. Donc il y a 10 propositions, dont l'aide à la recherche. Le financement de l'aide à la recherche. La première proposition, c'est le dépistage. Ensuite, c'est la fin du tabagisme. Ensuite, c'est accompagner les malades dans leur globalité, soutenir les aidants, financer la recherche, lutter contre la pénurie de médicaments, l'accès aux soins palliatifs, généraliser le droit à l'oubli, ça c'est quelque chose d'important,
C'est quoi cette généralisation du droit à l'oubli?
Alors,
vous pouvez préciser.
Le droit à l'oubli, quand quelqu'un a eu un cancer, même s'il est guéri depuis 20 ans, il est marqué au fer rouge et il ne peut pas avoir de prêt, il ne peut pas avoir d'assurance. Donc il y a eu quelque chose qui a été signé par Hollande il y a 2015. C'était le droit à l'oubli, mais c'est extrêmement restrictif. Il y a une liste de cancers qui donne ce droit à l'oubli, mais il faut absolument l'étendre davantage.
Alors, docteur Jean Bruyère, la Ligue contre le cancer existe depuis 1918. Il existe une centaine de comités départementaux. Quelles sont, en quelques mots, les missions de ces comités départementaux?
Alors, nous avons quatre missions. L'aide à la recherche, l'aide aux malades et aux proches, la prévention, dépistage et l'information. Ce sont nos quatre missions. Alors, l'aide à la recherche, on en a parlé. L'aide aux malades et aux proches, bien dans l'un, nous avons une commission d'aide sociale qui peut donner de l'argent aux gens pour les aider à garder la tête hors de l'eau. Nous finançons des consultations de psychologues cliniciens et cliniciennes pour les malades et pour les proches. On aide les gens qui sont hospitalisés. C'est de plus en plus court, les hospitalisations pour cancer. Donc, les gens rentrent chez eux. Et il faut qu'on les aide, il faut des aides ménagères pour les aider pour le quotidien. Donc nous finançons des aides ménagères.
Vous parlez aussi qu'il y a aussi la partie prévention. Peut-on prévenir le cancer en 2022?
Quand on reçoit une invitation à aller faire un dépistage, il faut y aller. Dépistage du cancer du sein, si on trouve un cancer du sein gros comme un demi-grain de riz, on a beaucoup plus de chances de guérir que si on attend qu'il soit gros comme une balle de tennis. Premièrement. Deuxièmement, pour le côlon, la recherche de sang occulte dans les selles est fondamentale parce que le cancer du côlon, il commence toujours par un polype bénin qui va saignoter pendant X mois ou années, et puis au bout de X mois ou années, il va dégénérer, donner un cancer, et là, ça va devenir très grave. Donc on a une longue période où on pourrait agir si les gens faisaient le dépistage.
Donc vous parlez donc de la prévention pour le cancer du sein, pour le cancer colorectal. Il y a aussi le cancer du col de l'utérus.
Alors, le cancer du col de l'utérus, le dépistage systématique devait être lancé il y a 3 ans. Et puis, il a pris du retard de fonctionnement. Et puis, il a pris du retard à cause de la Covid. Et on espère qu'il va se mettre en route courant 2022. On ne sait pas dans quelle mesure on aura beaucoup de succès, parce que la vaccination contre le papillomavirus est un virus qui est responsable de tous les cancers du col. Le cancer du col, c'est une maladie infectieuse. Donc si on vaccine contre le papillomavirus responsable, on va faire la prévention vraiment totale. Mais pour l'instant, cette vaccination, on plafonne à 20% en France. 20% des filles qui sont vaccinées. Et je ne parle même pas des garçons qui doivent être vaccinés eux aussi depuis janvier dernier.
Comment on peut expliquer cette réticence, ces chiffres de la vaccination?
Dieu sait qu'on a entendu des sottises pour la Covid. Ben, c'est la même chose pour le papillomavirus. Il est accusé de tous les maux, de donner la sclérose en plaques. Il y a eu des études extrêmement poussées sur des milliers de cas qui ont montré qu'il n'y avait aucun risque particulier de sclérose en plaques avec cette vaccination.
Alors, docteur Jean Bruyère, pour terminer, quels conseils on peut donner à nos auditeurs, à nos auditrices, pour justement être un petit peu à l'écoute de leur corps et pour faire justement des premières étapes de prévention de leur côté?
Alors, tout d'abord, connaître ses antécédents familiaux pathologiques, parce que il n'y a que 10% des cancers qui sont génétiques, mais encore faut-il les connaître. Et si on a son père, son grand-père, etc., qui ont eu un cancer du côlon, on a quand même plus de risques d'avoir soi-même cette maladie. Donc il faut connaître ses antécédents. Et puis, alors c'est un peu la quadrature du cercle, avoir un médecin généraliste et aller le consulter quand on a des symptômes et pas faire l'autruche.
Donc, comme le dit si bien le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir.
Tout à fait. Je voudrais quand même donner une petite note optimiste. Actuellement, toute forme et tous organes confondus ont guéri 58% des cancers. Donc, pour certains, c'est presque 100%, et pour d'autres, comme le pancréas ou le poumon, c'est beaucoup moins important. Mais en moyenne, c'est 58% qui sont guéris. Et il y a 25 ans, c'était 30% qu'on arrivait à guérir. Donc, on progresse quand même nettement.
Merci, docteur Jean Bruyère. Je rappelle que vous êtes le président du comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer.
Je vous remercie.
Merci à vous. Pour soutenir la recherche contre le cancer, rendez-vous sur le site ligue-cancer.net. L'argent récolté va directement aux chercheurs soutenus par la Ligue. Et vous pouvez aussi agir en triant vos bouteilles, beaucoup en verre, dans la poubelle verte. Chaque tonne collectée par Grand Bourg Agglomération, c'est 3 euros de subvention au comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer. En 2021, le comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer a reçu un peu plus de 13 500 euros. Alors, comment sont pris en charge à l'hôpital les patients atteints de cancer? Nous avons joint par téléphone le docteur Arnaud Coffin, l'un des oncologues médicaux de l'hôpital Fléria de Bourg-en-Bresse.
Il y a plusieurs modes d'entrée déjà à l'hôpital. Ça peut être soit par le cadre du dépistage, donc le plus connu est le cancer du sein, mais il y a d'autres dépistages, notamment le cancer du col de l'utérus, soit adressé, soit par le médecin traitant, soit directement aux urgences devant des symptômes. Donc à partir de ce moment-là, on fait une imagerie, on a une suspicion de cancer. On va lancer plusieurs examens, alors des examens d'imagerie notamment pour savoir d'où vient le cancer et son extension, des examens sanguins, mais surtout le plus important, il faut qu'on ait un prélèvement, un morceau de tissu pour affirmer en fait vraiment le diagnostic de cancer et pour adapter les traitements derrière. Donc ces examens, ils se font pour la plupart sur l'hôpital. Alors ça se fait très fréquemment en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients viennent à une consultation et ils reviennent pour les examens. Et nous ensuite, on les revoit avec tous ces résultats en consultation pour leur expliquer tout ça. Et ensuite, le traitement, on discute du traitement et le traitement est validé et discuté sur une réunion de concertation pluridisciplinaire où il y a tous les praticiens qui prennent en charge les cancers de l'hôpital où on discute du traitement et qu'on acte à ce moment-là.
Alors, côté psychologique, comment un médecin annonce ce type de diagnostic?
Alors, l'annonce se fait la plupart du temps en consultation, donc avec le patient et sa famille idéalement, enfin avec ses accompagnants. Donc on reprend un petit peu la situation, tous les éléments qu'on a, et on annonce en effet le cancer, quel type de cancer, et on essaye surtout, parce que c'est le plus important derrière aussi pour les patients, de commencer à discuter de la suite de la prise en charge et des éventuels traitements qu'on peut proposer, parce que il est important de faire l'annonce du cancer, mais aussi d'envisager la suite pour que les patients puissent se projeter. Donc l'annonce, elle se fait la plupart du temps en consultation, et nos patients sont revus quelques jours après, notamment par les infirmières qui ont été spécialement formées pour ça, pour refaire le point justement sur le cancer en lui-même, sur les traitements, et de pouvoir aborder tous les sujets qu'on n'a pas forcément pu aborder à la première consultation, parce qu'il y a souvent beaucoup d'informations à donner aux patients.
Est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est prévu en parallèle?
Alors nous du coup on a des psychologues dans le service, donc qui sont proposés systématiquement à la première venue, qui peuvent revoir les patients soit en consultation, soit au moment des traitements quand les patients viennent par exemple en hôpital de jour, et qui lui assure aussi le suivi des patients, par exemple une fois que les traitements sont finis, les psychologues revoient fréquemment les patients qui en ont besoin.
Alors, si vous avez des chiffres, combien de patients avec un cancer sont pris en charge au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse?
Alors, les chiffres précis sont assez difficiles à donner, parce qu'en fait, comme je vous disais, la prise en charge peut être multimodale entre la chirurgie, la radiothérapie. On a du mal à évaluer exactement ces chiffres-là. Ce que je peux vous donner comme chiffre, c'est par exemple pour l'hôpital de jour, globalement les chimiothérapies, mais aussi tous les autres produits qui sont administrables par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée et qui sont réalisés dans le service. Il y a plus de 17 000 préparations par an. Donc après, une chimiothérapie, il peut y avoir plusieurs produits, mais il y a plus de 17 000 produits qui sont préparés tous les ans sur le centre hospitalier Fléria. Sans compter également tous les patients qui sont traités aussi par des médicaments en ville, qui récupèrent en pharmacie de ville, qui ne sont pas inclus dans ces chiffres-là.
Alors, quels sont les cancers les plus fréquents chez les patients que vous suivez ?
Chez les femmes, c'est le cancer du sein. Chez les hommes, c'est le cancer de prostate. Et après, on a principalement des cancers du poumon, des cancers colorectaux. C'est ces quatre-là qui sont les plus importants, alors à l'échelle burgienne, mais globalement sur la France.
Et alors, avec la pandémie, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour prendre en charge ces patients atteints d'un cancer ?
Alors, nous, on n'a pas eu d'impact directement dans le sens où la cancérologie est une spécialité qui a été très protégée pendant ce temps de pandémie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de diminution des effectifs et ni du nombre de places pour les patients hospitalisés pour de la chimiothérapie ou qui venaient pour la prise en charge de cancer. Les chirurgiens, même si des blocs opératoires ont été fermés, notamment pour pouvoir permettre de prendre en charge les patients en réanimation, la cancérologie a quand même été une priorité, donc il n'y a pas eu de retard à ce niveau-là. Le principal retard qu'on a vu, c'est des patients qui consultaient plus tard, alors soit parce qu'il y avait des examens de dépistage qui avaient été annulés, soit parce que, surtout notamment lors de du premier confinement, on disait aux patients de ne pas sortir de chez eux et de ne pas venir à l'hôpital, ce qui fait qu'il y a eu un petit peu, alors pas énormément, mais il y a eu un petit peu de retard de prise en charge à ce niveau-là.
Eh bien, docteur Arnaud Coffin, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Le docteur Arnaud Coffin, l'un des oncologues médicaux de l'hôpital Fleuria de Bourg-en-Bresse. Vous vous sentez comment, là, avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
Pousse ! En reportage avec Radio B.
Le Dante et Virgile de Gustave Doré de retour au monastère de Brou.
Fin janvier, l'œuvre monumentale Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer est rentrée d'une exposition à Rome pour les 100 ans du poète italien Dante. Elle est arrivée en camion dans une grande caisse. Pierre-Gilles Giraud, administrateur du monastère de Brou, regarde attentivement ce spectacle peu habituel.
Le tableau qui est très grand format arrive dans une caisse roulée, le tableau fait plus de 3 mètres sur 4 mètres 50, et qui doit entrer à l'étage du musée par l'une des fenêtres qui domine le jardin. Donc l'intervalle qu'il y a entre le sommet de la fenêtre et la balustrade est quand même assez réduit. Donc il faut viser bien droit et y aller tout doucement pour transporter la caisse à l'intérieur du musée. Gustave Doré est surtout connu comme illustrateur, dessinateur et graveur. Il a réalisé des milliers de gravures au cours de sa carrière, qu'il a d'ailleurs commencé à Bourg-en-Bresse. C'est pour ça que nous consacrons un fonds important à Gustave Doré, puisqu'il a passé ici ses années de lycée, et c'est à Bourg-en-Bresse qu'il a publié ses premières gravures. Mais il avait une grande ambition qui était d'être reconnu comme peintre, et c'est pour ça que depuis les années 1850, il travaille sur l'illustration de l'enfer de Dante, dont il publie une grande édition in folio en 1861, mais la même année, il souhaite présenter au salon, le salon annuel d'art qui avait lieu à Paris, qui était le grand rendez-vous des artistes, cette grande toile consacrée à une scène particulièrement dramatique de l'enfer de Dante, puisqu'il s'agit donc des damnés, des traîtres qui sont pris dans un lac de glace, qui sont condamnés à vivre éternellement dans le froid, dans un froid glacial, d'où les expressions extrêmement pathétiques et douloureuses de ces damnés. On voit aussi le comte Ugolin qui a vu mourir ses enfants et qui dévore la tête de l'évêque Ruggieri. Enfin, c'est un tableau un petit peu gore. Et la scène donc est dominée par les deux silhouettes colorées en rouge et bleu de Dante et du Virgile. Virgile, le poète antique, guidant Dante, le grand poète italien de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, visiter les différents cercles de l'enfer. Et là, on est dans le 9e cercle qui accueille justement les traîtres et leurs châtiments.
La toile est bien passée par la fenêtre du monastère et elle doit s'acclimater à nouveau au musée de Brou. Le mardi qui suit, c'est le grand jour. Il faut monter le tout nouveau châssis et installer la toile. C'est l'atelier Vicat Blanc, basé à Lyon, qui s'en charge. Gérard Blanc et Laetitia Prouveau sont restaurateurs. Ils sont venus pour la journée.
On était en Angleterre et puis aussi avec ce tableau, on a été à Toronto. À un moment donné, nous, on a dit, ben stop, il ne faut plus qu'elle voyage, sauf si on doit réaliser une restauration un tout petit peu plus conséquente. Donc là, effectivement, on a repris tous ces bords de tension et on a demandé pour la prochaine exposition de Rome qu'il puisse être sur un châssis beaucoup plus approprié, qui permette effectivement des démontages et des montages successifs et surtout moins de traumatismes dans ces mises en tension. C'est des châssis, on va pouvoir visser pour écarter la périphérie et non pas frapper comme on a pu le faire avant.
Et la toile en elle-même, est-ce qu'au niveau des couleurs, ça, vous avez restauré aussi ?
Un petit bichonnage, c'est le terme qu'on utilise vraiment pour quand il y a une petite restauration, pour reprendre les quelques repeints qui ont pu être désaccordés. Il y avait notamment des problèmes de brillance, donc on a vraiment essayé de reprendre la brillance des retouches et d'améliorer quelques endroits. Voilà, il a été dépoussiéré aussi. Mais sinon, comme il avait été restauré il y a une vingtaine d'années, il était en bon état. Enfin, la couche picturale était en bon état.
Une toile, elle est faite pour être sur un plan. Elle n'est pas faite pour être roulée. Donc, toute la problématique, elle est là. Roulage, déroulage. On va la dérouler. On va pouvoir mettre en place le châssis. Mais après, il faudra retourner pour effectivement tendre et puis vérifier qu'en même temps qu'on tend. Donc ça, ces opérations de manipulation sont dangereuses, mais on a quand même l'habitude et tout c'est toujours fait pour le mieux. Ça fait déjà six fois qu'on la déroule, reroule, remet sur les châssis. Il se trouve que cette toile est une très belle toile, que la peinture et que la technique est vraiment excellente. Hein. Gustave Doré, c'est vraiment excellent. Donc il y a très peu de... Elle reste souple, elle n'est pas cassante. Voilà. Je tends la toile, car le châssis a des petites vis poussoirs qui vont permettre de pousser les parties sur lesquelles est agrafée la toile, les pousser vers l'extérieur. Voilà, progressivement. Voilà, c'est une mise en tension supplémentaire qui se fait très progressive. Prochaine opération, c'est la dresser contre le mur, amener le cadre et la poser dans le cadre, et puis réaliser... Une dernière opération de tension effectivement et surtout de pose d'un intissé polyester, on peut appeler ça un petit dos protecteur filtrant qui va permettre d'éviter que les salissures, que les insectes puissent venir à l'intérieur et se loger par exemple, ce qui est très dommageable entre châssis et toile.
Juste, on va soulever le tableau, il faudrait nous enlever les tables qui sont dessous, là-bas, c'est ça déjà dans un premier temps.
Un nouvel emplacement, donc pourquoi ce choix ?
Le grand tableau de Gustave Doré, Dante et Virgile au 9e cercle de l'enfer, sont un des tableaux, peut-être même le tableau phare de nos collections. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le plus grand. Or, à l'emplacement précédent, on manquait de recul pour le contempler. Dans le grand couloir, même si le couloir est très large, il fait près de 5 mètres de l'ancien dortoir des moines qui accueille les collections du musée. Donc on a sélectionné dans nos murs, avec des contraintes, parce que du fait de ces dimensions, il faut un plafond suffisamment élevé. On a sélectionné donc un nouvel emplacement qui permettra de le voir avec plus de recul. Et puis dans le parcours de visite, en sortant de la grande galerie qui accueille les œuvres d'art de la Renaissance, on pénétrera dans cet ancien dortoir des moines, littéralement face au tableau qui est extrêmement impressionnant et imposant.
En tout cas, il n'y a pas photo, la place est vachement bien. Ouais, ça va aller d'ici.
Ça recule.
Voilà.
On n'a jamais vu sous cette image.
C'est génial.
Le tableau de Gustave Doré, Dante et Virgile dans le 9e cercle de l'enfer, doit aussi avoir un nouvel éclairage pour le mettre en valeur. Il est visible dès cette semaine au musée du monastère royal de Brou.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On se retrouve le lundi 28 février à 18h sur le 90 FM. Oui, alors pas de magazine pendant les vacances scolaires, mais restez à l'écoute de Radio B et retrouvez tous nos podcasts sur radio-b.fr. Bonne semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney ?
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.